Deezer Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Rétro 2050 avec Thomas VDB, Sérieusement avec Pablo Mira ou encore It Story d'Éric et Quentin, la presque vraie histoire des tubes.
Football. Football Recall.
Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui fait tourner les soviets. Tous les matins, sur le site de SoFoot et de Deezer, on te débriefe les matchs de la veille et on te spoil les matchs du jour.
Et avec Football Recall, tu vas enfin devenir un as de la Russie. Sais-tu par exemple que des prisonniers russes se sont fait tatouer les visages de Lénine et Staline? Pourquoi? Parce que leur gardien avait interdiction de tirer sur leur grand leader.
Bien vu. Et oui. Je suis Thomas et je peux vous dire que mon père commence à m'envoyer des textos qui parlent de foot. Je pense que ma mère a dû lui balancer un tips.
Et je suis Mathieu et nous voilà de retour après 2 jours d'absence. On est oui. En pleine forme, on va attaquer les quarts de finale. Et aujourd'hui, gros programme, Brésil-Belgique à 20h. Et avant, évidemment, le grand moment national, France-Uruguay.
La France,
monsieur. On va en parler longuement. On aura notre envoyé spécial en direct dans l'émission.
Waouh.
Et oui, on innove. Et on va comme d'hab s'intéresser à l'adversaire des Bleus, l'Uruguay.
Oui, et on aura aussi les pronos d'une personnalité. Aujourd'hui, ce sera Émilie Bess.
Football Recall. L'émission qui prend les matchs du mondial les uns avant les autres.
Et comme chaque fois, puisqu'on n'est pas chaque jour, on a...
Oui, chaque jour de match.
Chaque jour de match. On est accompagné d'un membre de l'équipe SoFoot et Society. Aujourd'hui, c'est l'un des piliers de la bande, c'est Sylvain Gouverneur.
Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu un pilier au rugby, bah, c'est exactement
c'est
à ça que je ressemble.
De toute façon, à la voix, déjà, ça s'entend, c'est imposant. Sylvain, ASP.
42 masculin, oui. Et la France du général de Gaulle, monsieur, c'est fini, on est en quart, là on arrête avec les équipes...
La France du TGV, du Concorde.
La grande France, ouais, la belle France.
La France du Concorde.
France des colonies.
Je crois que c'est vraiment la belle métaphore de la France.
Et alors, on entend...
Oui, quelqu'un qui rigole.
Quelqu'un qui rigole derrière.
Oui.
C'est les colonies, qui, ça fait toujours rire les colonies.
C'est Doskov.
C'est Alexandre Doskov, il est là avec nous. Oui. Aujourd'hui, on ne se contente pas d'une minute de Doskov. C'est vrai que c'est toujours un peu court. On se dit, on n'a qu'une minute trente de Doskov. On reçoit des courriers, donnez-nous plus de Doskov. Alexandre, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Salut Doskov, c'est lui qui nous a en fait proposé...
Comme on dit ici en Russie.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on l'utilise plus souvent.
C'est une langue dans laquelle le mot bonjour est le plus compliqué à écrire, à prononcer.
On sait que tu as l'hôtel Ibis de Garges-lès-Gonesse. Hein. tu peux arrêter la mascarade.
C'est Doskov qui a proposé, voire même menacé de se foutre en l'air si on ne l'utilisait pas plus, parce que là, ces journées sont très longues, c'est ça ?
Ouais. Après, je suis dans un hôtel avec les fenêtres fermées, donc je ne vois pas bien comment je me foutrais en l'air, mais je ne
sais pas. Oh, tu sais, Orange. Bref.
Oui, bon. C'est vrai. Oula. Oh.
Donc, Alexandre, qui est donc à, rappelle-moi le nom de cette ville que je n'arrive jamais à prononcer. Non. Novogrod.
Presque. Alors, c'est plus proche que celui qui a dit Istra. Je suis à Nijni Novgorod actuellement.
Bon, c'est pareil. Hein. Mais Nijni Novgorod se prononce Istra, mais dans l'est de la Russie.
Et c'est effectivement à l'est de Moscou. C'est pas très loin. C'est 500 km de Moscou. Et j'ai quand même pris l'avion pour venir. Donc il y a quelques ours polaires qui sont plus sur cette planète.
Alors, on va avant de parler des Bleus, vraiment d'un mot, puisqu'on débriefe toujours les matchs de la veille. Là, il y a effectivement pas de match de la veille. Mais on va peut-être débriefer les huitièmes de finale. Un truc, Sylvain, que tu retiens de ces huitièmes.
Oh bah, Suède-Suisse, c'est chiant les matchs de blanc.
Très bien, voilà. Très bien, je pense que ça suffit, c'est bien.
Moi, c'est en général, c'est la tyrannie des pronos. En fait, j'en ai marre qu'on propose de faire les pronos pour la Coupe du Monde, quoi.
Les concours de pronos.
Ouais, concours de pronos sur des sites.
En entreprise.
Ouais, c'est ça, exactement. J'ai vraiment l'impression d'être à la compta.
Est-ce qu'on t'a proposé des doubles pronos? Non.
Non.
Je voulais savoir.
Pas encore. Mais non, mais c'est vraiment ça. En plus, un, tout le monde le fait, c'est insupportable. Deux, c'est hyper dur. C'est impossible de savoir qu'on part en prolongation un partout et une victoire au penalty. Et trois, non, je n'ai pas de tuyau. Arrêtez de m'emmerder. Je ne sais pas si Cavani va jouer. Qui va remplacer Matuidi? Laissez-moi seul.
Doskov, il y a un truc que tu retiens des huitièmes?
Ouais, c'est cette grosse banane de Harry Kane qui met que des penalty et voilà. Et qui arrive à se faire passer pour un joueur de football à qui vaut 150 millions ou je sais pas combien.
Meilleur buteur du mondial.
Marque des vrais buts. Ouais. Marque des vrais buts et pas contre Panama et contre les pressions penalty. Et on en reparlera.
Eh ben écoute, il écoute ce podcast en ce moment. Mathieu, ton coup de gueule, tu as un coup de gueule?
Moi, j'ai un coup de gueule. Moi, j'en ai absolument ras-le-bol de la morale dans le foot. Et j'ai l'impression que là, cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde de la morale. Deux faits sur le même match, Japon-Belgique. Le premier, c'est les Japonais, qu'est-ce qu'ils sont sympas. Ils ont nettoyé leur vestiaire avant de partir.
C'est normal, ça.
On n'a pas du tout parlé du match. On a parlé par contre de cette image image qui a tourné partout des Japonais.
Ils ont laissé un petit mot.
Merci, merci, marqué en russe. Ouais. C'est super, c'est très mignon. Et l'autre, c'est ce but à la 93e qu'ils prennent contre les Belges alors qu'ils sont en phase d'attaque sur un corner. Ils prennent un but sur une contre-attaque en 20 secondes. Et tout le monde dit, quelle cruauté le foot. Bah non, en fait, non, c'est pas cruel. C'est juste, t'as oublié de défendre, quoi.
Ah, mais surtout, c'est le type avant qui a un coup franc de 35 mètres et qui le tente direct avec Courtois dans les cages, quoi. Quel génie aussi, celui-là.
Donc, de tout ça, on ne parle pas du tout. Par contre, on a été bien emmerdés sur Japon-Belgique parce que les Belges, on les trouvait sympas avant qu'ils jouaient contre les Japonais, mais les Japonais, ils sont plus sympas. Alors, comment tu fais pour déterminer ton choix entre deux équipes sympas? Voilà, moi, c'est le truc que je retiens des
huitièmes. Alors qu'on a aussi dit que les Japonais, le public japonais ramassait leurs déchets après un match. Ouais. Les Sénégalais ont fait pareil. On l'a entendu nulle part.
Ça, on s'en fout, ça.
Ouais, c'est pas, ça colle pas avec le cliché, avec la carte postale.
On va passer au point bleu.
L'actu des Bleus.
Oui, je suis prêt.
Ouais. Ça fait 6 ans qu'il est prêt, Doskov, pour ce point bleu.
Dans les starting blocks.
C'est ça.
Doskov, on va commencer par un truc. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des supporters français qui sont présents en Russie en ce moment? Parce qu'on en doute, on les voit pas dans les stades, on les voit à peine dehors.
Ouais. Et on les aura. Et pour être dans les stades, on les entend pas non plus. Après, alors pour les charger non plus. C'est vrai que jusqu'à présent, on a affronté pas mal d'équipes sud-américaines, Pérou, Argentine, la Uruguay. C'est des publics qui font énormément de bruit. Donc c'est vrai que pour se montrer face à un public sud-américain, ça c'est compliqué. Mais tout à l'heure à Nijni Novgorod, on annonce 2000 supporters français dans un stade qu'on fait 45 000. Donc ouais, spoil, on va pas non plus les entendre ni les voir.
T'en n'as pas du tout croisé, toi. T'as fait 5 matchs. T'as croisé qu'à chaque fois des petites grappes de supporters.
Ouais, alors l'endroit où j'en ai, à Moscou, j'en avais pas mal vu avant le match contre le Danemark, parce que bah forcément grande ville, facilité d'accès, tout ce que tu veux. Donc voilà, à Moscou, c'est là où j'en ai vu le plus. À Kazan, allez, à la rigueur, encore, c'est vraiment pour dire que j'en ai vu. Mais non, allez, ouais, c'est quand même Moscou, j'en ai vu le plus. Et là, pour l'instant, à Nijni, très très discret.
Bah, faut dire qu'on a vraiment pas beaucoup de vacances en France aussi. Les gens peuvent pas non plus griller leurs 2 jours de vacances.
Et la plupart des gens que je vois ont l'air de n'avoir aucun emploi. Donc, ceci explique sans doute cela.
Sur l'autre point, le point chaud, c'est évidemment le remplacement de Blaise Matuidi qui est suspendu pour le match de 16h.
Bisous.
On s'en était parlé le lendemain de la victoire contre l'Argentine et on était tous les deux d'accord pour dire que a priori c'était Tolisso, et puis finalement il y a des espèces de fausses pistes qui sont lancées. Alors est-ce que c'est des fausses pistes, est-ce que c'est des vraies pistes? Toi, est-ce que tu as des débuts d'infos? Est-ce que tu constates qu'effectivement le staff fait tout pour qu'on s'embrouille?
Ouais, alors déjà, alors moi j'entends un peu de tout ici. Alors parmi les journalistes qui habituellement sont les mieux informés, j'entends du Tolisso, j'entends parfois du Fekir, enfin c'est assez, et j'ai entendu encore hier des journalistes très informés dire que le staff n'avait pas encore pris sa décision. Donc il y a pas mal de fausses pistes qui sont lancées, et surtout comme tu viens de le dire, c'est que la FFF a vraiment pris les devants pour empêcher quiconque de violer le huis clos des entraînements, et ça a une espèce de running gag qu'on fait depuis quelques
bien
émissions
sûr, ouais.
sur ces journalistes qui tentent à chaque fois de se mettre à un endroit où ils peuvent voir le terrain. Et là, la sécurité a un petit peu mis les bouchées doubles. Et j'ai parlé à des collègues qui se sont fait gerter un peu manu militari de certains endroits où ils étaient en planque avec des jumelles. Et ouais, parfois, ça a été assez russe dans les méthodes.
Donne-nous des médias, donne-nous des noms
ouais,
de médias.
Donne les noms.
Ah, c'était ça. Il y a un grand quotidien qui a été possédé par un grand industriel français qui est décédé le mois dernier, si vous voulez un indice, qui voilà, un de leurs journalistes qui était sur une terrasse d'un appartement à Istra où il avait sympathisé avec la famille qui y habitait, d'où il arrivait à voir le terrain d'entraînement avec une paire de jumelles. Et voilà, toc toc toc, qui est-ce? Bah c'est Igor et on vient pour te prendre ta carte de presse, tes jumelles et que tu voilà, boum boum, tu rentres chez toi. Donc voilà, très 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 rude la sécurité en ce moment.
Ce qui est fantastique, c'est qu'on se plaignait avant cette Coupe du Monde d'aller dans un état autoritaire, et finalement ça nous sert bien.
Oui, on a créé notre propre état autoritaire.
toi tu risques rien, rassure-nous.
Non, moi je tente pas ce genre d'aventure. Moi je reste loin de tout ça et j'attends ensuite les histoires rigolotes pour dire à mes collègues bon bah la prochaine fois tu resteras à Istra, quoi, à l'hôtel.
Est-ce qu'on profite de Doskov, puisqu'après on finira l'émission sans lui, pour avoir les pronos?
Allez, Doskov, voilà. Vas-y.
Bah, je pense que la France va l'emporter et je mets 2-0 pour l'équipe de France et je vais bientôt donner le scénario. 1-0 pendant une bonne partie du match avec cette espèce de défense uruguayenne sur laquelle tout le monde se pignole. Ah, ils prennent pas de but jamais, nanana, etc. Et justement, comme en fin de match, les Uruguayens sont un peu démobilisés et qu'ils comprennent que ça leur échappe, ils laissent filer un contre et ils en prennent un deuxième. Et voilà, et on n'en parle plus et la France va en demi-finale.
Sylvain.
5-3.
5 à 3.
Okay. Ben oui, parce que ça fait 5 matchs qu'il n'y a pas de but. Il y a un moment, toute série qui se prolonge arrive à la fin. C'est mathématique. Donc là, beaucoup de buts, 5-3.
Okay. Ouais, c'est une énergie. Ouais.
Moi, je vois un 1-0 pour la France en prolongation. Mais un match compliqué, très compliqué.
Et moi, je vois un 1-0 avec un but à la 75e. Un truc assez pénible à regarder.
Un défenseur ?
Non, un attaquant. Ben tiens, je mets Florian Thauvin. Tu m'entends, Alexandre ? Florian Thauvin, but de Florian Thauvin.
C'est un match pour Olivier Giroud d'un pointu, obligé.
Et juste pour terminer cette page consacrée aux Bleus, on dit toujours un mot de nos adversaires. Mais je voulais juste rappeler les liens séculaires entre la France et l'Uruguay. Parce que c'est entre les deux pays, c'est une longue histoire. C'est bien avant que Cavani ne vienne empiler les buts en Ligue 1 ou que Christian Rodriguez ne vienne empiler les verres de whisky coke dans les boîtes parisiennes. Le foot uruguayen s'est révélé au monde entier à Paris. C'était en 24 pour les JO. Et c'est la première fois que des équipes sud-américaines et européennes se retrouvaient dans le même tournoi. À l'époque, la Coupe du Monde n'existait pas. Et en 24, au stade de Colombes, puisque en Uruguay j'ai appris qu'on disait Colombes au lieu de Colombes.
Pour Colombes, d'accord. Ouais.
Le plus français a vite fait connaissance avec l'Uruguay, puisque la Céleste a gagné 7-0 face à la Yougoslavie, 5-1 face à la France, et en finale 3-0 contre la Suisse.
Bah, c'était le pronostic de Sylvain, mais Sylvain se prononçait sur 1924.
42 ans.
Et ce titre olympique en Uruguay, il est considéré comme le premier titre de champion du monde du pays, puisque la Coupe du Monde n'existait pas. Et c'est pour ça que l'Uruguay a 4 étoiles, 2 pour les JO, 24 et 28, et 2 pour les Coupes du Monde 1930 et 1950. Et c'est hyper important pour les Uruguayens parce que ça leur permet de dire que les Argentins n'ont que 2 étoiles alors que eux en ont 4. Et enfin, une dernière petite info qui montre les liens entre l'Uruguay et la France. Là, c'est des liens plus charnels puisque pendant ces JO de 24, il y a un joueur qui est devenu une superstar qui s'appelait José Andrade et il était surnommé la Merveille Noire. Et en plus d'être un grand footballeur, Andrade était connu pour être un sacré fêtard. Élégant, costard, cheveux gominés, il séduisait à tour de bras et il avait séduit Joséphine Baker. Ouh. Et on lui a même prêté une petite relation avec Colette, pas les magasins, l'écrivaine. Et Andrade est une telle légende qu'il y a une chanson qui lui est dédiée. On va écouter la chanson. Et voilà, et ce séjour parisien a changé la vie de José Andrade à tel point que l'année suivante, il a contracté la syphilis à Bruxelles.
Très beau souvenir de Paris. Hein.
Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'il a perdu la vue ensuite. On imagine que c'est des conséquences de la syphilis et qu'il est mort aveugle, ruiné, SDF, dans une espèce de parking à Montevideo.
Et on se gratte dans les couilles.
Merci Alex Doskov. On se parle demain.
Demain, on fera un gros débrief. Voilà, on est dans le futur.
Oui, voilà, ça fait du bien.
On est content d'avoir eu Doskov aussi longtemps, ça nous change.
Oui, il est content aussi, je crois.
Deux matchs aujourd'hui, évidemment France-Uruguay, on en a parlé longuement, et Brésil-Belgique, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même un gros match à 20h, Brésil-Belgique. Et c'est Sylvain qui va nous dire ce qu'il faut regarder pendant ce match.
Les recos.
Sylvain.
Eh oui, je dois vous avouer que je suis un peu triste parce que j'aurais adoré vous parler de Brésil-Japon. Hein, parce que contre la Belgique, bah voilà, j'ai trouvé le Japon assez séduisant. Alors pas dans tout ce qu'on disait, pas sympa, non. Mais parce qu'il y avait un jeu de passe, c'était quasiment un balai, c'était délicat. On dirait jamais que c'est des gens qui massacrent des dauphins à coups de barre de fer. Vraiment, très très. Et je voudrais revenir sur le scénario du match dont tu as un petit peu parlé. Mais le scénario, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais comme je suis payé au nombre de mots, bah, je vais faire quand même. Le match est quasi fini. Les Japonais, ils tiennent un bon 2-2. Et puis soudain, un corner qui fait suite à un coup franc tiré par eux. Et alors là, les mecs montent tous.
Tout à fait.
Corner à 95e, un contre et paf, un but à la con qui les élimine au dernier moment. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas foutre à 11 devant à la 95e quand il y a 2-2? Est-ce que tu as pris Ginola comme conseiller technique? C'est débile. Mais bon, sans compter que les mecs, ils apprennent jamais parce que c'est pas la première fois que ça leur arrive. Déjà, en 45, la guerre, elle est finie depuis mai. Les mecs, ils s'apprêtent à ranger leur pays et paf, en août, ils se prennent 2 bombes nucléaires, hop, éliminés de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ils apprennent jamais, à croire qu'ils font exprès. Et du coup, je suis obligé de vous parler de la Belgique. Et en même temps, bon, si ça peut me faire choper une chronique sur France Inter.
C'est pas si mal.
Alors, Brésil-Belgique, allez les Belges, ouais, France Inter, du coup. C'est marrant parce que les Belges, ils ont Thierry Henry sur le banc en deuxième adjoint. Et le match, il tombe pile en même temps que la saison du melon. Vous avez vu ? C'est fou, hein ?
C'est bien fait.
Hasard ou coïncidence, il faut l'avouer, c'est un match où il risque quand même d'y avoir pas mal de spectacles, hein. Ça me désole, mais déjà la Belgique, c'est 43 buts inscrits en phase de poule. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une seule équipe qui a fait mieux, et c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est...
Bonne question. Le Brésil ?
L'Angleterre ?
La Grande Allemagne. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce propos, est-ce que vous avez vu le film « Tout ça pour ça » ? Non, et ben Joachim Löw non plus. Belgique, c'est aussi 12 buts dans ce mondial, hein, contre des adversaires redoutables, Panama, la Tunisie, impressionnant. Côté Brésil, c'est pas mal non plus. Hein. Tu vois les noms en attaque, tu mets Coutinho, Neymar, Willian, Gabriel Jesus, Lucas Moura. Il y avait un piège. Et, si tu mets tous ces noms en face de la fameuse défense à 3 de Martinez, là, tu te dis que ça va pas finir à 0-0 cette histoire. Et d'ailleurs, on sait que la dernière fois que la Belgique a testé une défense à 3, c'était face aux Allemands en mai 40. On sait que ça n'a pas fini à 0-0 non plus.
Je l'ai vu venir. Je me suis dit, attention,
des références historiques.
Je vous ai noté un petit chiffre intéressant pour ce Brésil-Belgique. C'est la possession de balle moyenne des deux équipes sur cette Coupe du Monde. Alors, pour le Brésil, c'est du 55,7%. Alors que pour la Belgique, c'est du 55,5%. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire qu'on va dépasser les 100%.
Ça veut dire que sur ce match, on va arriver à 111,2% de possession de balle. Alors, je sais pas trop comment ils vont faire, mais ça va être intéressant à regarder. Peut-être ils vont filer un ballon à Neymar pour qu'il joue tout seul.
Voilà. Le rêve de Neymar.
Ouais, c'est intéressant. C'est un match où on va avoir droit à un arbitre serbe, Milorad Mazic. Et c'est une bonne nouvelle pour le spectacle. Pourquoi? Parce qu'il a été élu à 79% le plus mauvais arbitre du mondial 2014.
C'est vrai, ça?
C'est vrai, ça. Ah oui, c'est vrai. Il s'est rattrapé depuis, mais il y a quand même moyen de se marrer s'il fait des
sondages pour désigner
qui vote, surtout,
des sites,
qui vote.
Des sites. Et je voulais vous parler côté belge d'un type qui sera probablement pas titulaire.
D'accord.
Mais c'est un petit peu mon coup de cœur, d'être humain. C'est Yannick Ferreira Carrasco. Mm-hmm. Un type vraiment super. Un type à la carrière débile, puisqu'à 24 ans, il a décidé de quitter l'Atlético de Madrid pour signer en Chine au Dalian Harbin.
Oui, bien sûr.
Voilà, selon lui, parce que le projet de développement sportif du groupe l'a convaincu et a motivé sa décision. Et c'est vrai que c'est un club où évoluent des grands joueurs comme le fameux Qiuming, Han, ou encore le valeureux Yang Chanping. Voilà, mais bon, en fait, il a un petit peu craqué après son interview. Il a avoué, il est parti en Chine pour trouver du temps de jeu. Je mime les guillemets, parce que c'est vraiment ce qu'il a dit. Il fallait bien aller là-bas pour ça. Et rien à voir avec les 75 millions d'euros sur 50 contrats.
Non, rien à voir.
Mais niveau foot, il a fait un super choix, puisqu'il a commencé par un petit 8-0 pour le prochain, enfin, pardon, un petit 0-8 pour le premier match, avant d'enchaîner sur d'autres défaites. Et il se retrouve dans un club qui est 15e sur 16 dans son championnat. Petit rayon de soleil dans la vie du club. Il joue samedi un quart de finale de Coupe de la Chine. Et j'espère que Yannick va choisir d'être laissé au repos contre le Brésil pour être au top pour aider son club. Et enfin, j'ai un petit dernier truc. I have a dream pour ce match. J'ai un rêve, comme on dit dans la langue de Bézu. Mm-hmm. Il faut savoir que je déteste Kevin De Bruyne.
Pourquoi? Alors
déjà, le mec, c'est orangina rouge. Il est jamais content, il est toujours méchant, et en plus, il est roux. Ouais. J'imagine que vous êtes au courant, mais en 2014, Kevin, il s'est fait piquer sa meuf par Thibaut Courtois.
Ah non, je savais pas.
Alors c'est assez simple. C'est le gardien des Diables Rouges, Thibaut Courtois, pour ceux qui ne savent pas. La copine de Kevin est partie avec un ami de Thibaut Courtois voir Thibaut à Madrid. Et là, Thibaut, il lui a fait à manger. Elle a nana, elle s'est dit, oh, il me fait à manger, hop, je couche avec lui. Bon, c'est légitime. Hein. Donc elle a couché avec lui. Et puis Thibaut l'a dit à une copine de Kevin, qui l'a répété à Kevin. Ça a mis un peu la merde dans le vestiaire belge. Kevin, il est pas content. Mais moi là, mon rêve, c'est que on se retrouve au penalty avec Kevin qui rate son tir au but et Thibaut Courtois qui sort les deux derniers tirs au but brésiliens. Et là, un gros zoom sur la tête de Kevin De Bruyne. Rideau.
Qu'est-ce qui se passe avec...
Avec Sébastien Abreu. Ça vous dit quelque chose?
Tout à fait.
Oui. Uruguayen.
C'est ouais. Ça. Alors, avant de parler de Sébastien Abreu, j'ai une petite question. Est-ce que vous vous rappelez de l'émission L'été des records sur France 3 au
oui.
début des années 2000?
Où êtes-vous, Pierre, où êtes-vous?
Oui. C'était
Barry White.
Exactement. C'était présenté par Pierre Sled et produite par la même boîte de prod qui fait Burger Quiz actuellement. Faut
ah
le savoir.
Ouais, ouais.
Et même réalisé par le même réal que Burger Quiz, Jérôme Revon. Bref, Pierre Sled recevait tout un tas de candidats qui tentaient de battre des records insolites avec des guillemets. Alors, insolite, c'est un mot sympa pour dire record totalement débile. Je vous ai pris un exemple.
Et maintenant, puisqu'on y est, on revient au record du jour avec Frank Simon. Il a échoué pour 2 secondes tout à l'heure. Le porté de mobilette, de vélomoteur sur ses dents. Elle pèse 62 kilos. Il faut tenir 10 secondes.
Le porté de motobilette
sur ses dents.
Sur ses dents. Frank Simon. Ouais, vraiment, je vous conseille d'aller voir YouTube. Il y a plein de beaux extraits comme ça. Et pour présenter le livre des records, évidemment, il y avait le fameux
Barry White.
Barry White, oui. Rockour. Pierre.
Rien à voir.
Pierre Rockour.
Rien à voir avec le Barry White chanteur, mais qui est membre du jury Guinness Book.
Ouais. Rien à voir avec le chanteur dégoulinant. Barry White, pour l'anecdote, c'est un ancien international français de basket.
Ah bah je ne savais pas.
On apprend ça beaucoup de choses ici. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de record. Ah, pas de motobillettes.
D'où, voilà, oui. D'où la longue introduction pour arriver à Abreu.
Exactement. Parce qu'avant Cavani ou Suarez, l'un des hommes forts de l'attaquant de l'Uruguay, de l'attaque de l'Uruguay, pardon, c'était Sébastien Abreu. Donc, il a notamment disputé les Coupes du Monde 2002 et 2010 avec son pays. Et justement, celui qu'on appelle El Loco vient de battre un record du monde. Lequel, à votre avis? Petit indice, il n'y a pas de motobillettes sur les dents. Hein.
C'est un truc aussi débile que le son qu'on a entendu?
D'une certaine manière, oui.
Il a mangé des verres.
Non.
Des verres à boire.
Non.
Du verre, des assiettes en verre. Des fois, ils font ça.
Sylvain?
J'en ai aucune idée. Laissez-moi. On peut couper. On n'est pas vraiment en direct. Oui. J'ai Internet. Vous me laissez deux minutes. J'en ai aucune idée.
À 41 ans, Abreu vient de signer dans son 27e club de sa carrière.
Ah,
eh oui. Record, Pierre. Record.
27.
Au total, il a joué dans 11 pays différents. De quoi faire passer Xavier Gravelin pour un petit rigolo.
Ouais.
Donc, Abreu vient de signer au Deportes Magallanes au Chili. Rien d'étonnant. On sait déjà que c'est sa troisième équipe chilienne, hein, dans sa carrière. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui signifie donc que Sébastien Abreu a battu le précédent record détenu par
Xavier Gravelin.
Sébastien Abreu lui-même.
Ah,
oui,
d'accord.
Il a battu son propre record. En janvier dernier, il a signé donc avec son 26e club. Les représentants du Guinness étaient déjà là, sur le terrain. Ils lui ont remis un certificat officiel en main propre.
Non, il est vraiment rentré dans le Guinness?
Il est vraiment dans le Guinness, bien sûr.
Ah, c'est dingue, ça.
Le plus grand nombre de clubs dans sa carrière. Et il a dit à ce moment-là, je le cite, « Honnêtement, je n'ai jamais essayé de briser le record du monde, mais ça me rend très heureux. Le fait qu'un Uruguayen originaire de la petite ville de Minas soit devenu le premier joueur de l'histoire du foot à battre un tel record me rend fier. »
Il ne faut pas dire ça à Ferreira Carrasco, parce qu'il va se dire « Merde, j'ai un peu de retard, il faut que je... »
Exactement. Hein.
Abreu peut être fier, mais pas autant que Luis Merengue, de la ville de Sète, c'est vrai, qui a réalisé 18 sauts dans son propre slip en une minute. C'est un vrai record dans l'émission des records.
L'action du jour.
Et l'action du jour, c'est cet après-midi à 17h54.
Tentative de saut dans le slip.
Umtiti et Varane regagnent en courant leur vestiaire. Vite, 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 ils ont besoin de toute urgence d'un petit atelier méditation et sophrologie.
Bien sûr.
Ah bah c'est que ça stresse d'avoir Luis Suarez autour de soi là pendant 90 minutes, c'est pas évident. Vous avez tous entendu parler des frasques de l'attaquant uruguayen, mais alors est-ce que vous connaissez si bien que ça sa carrière?
Ouh, c'est l'heure du jeu là.
C'est l'heure du jeu. Je vais vous donner une phrase et vous me dites si elle s'applique à Luis Suarez ou à un autre pro des scandales, Gérard Depardieu.
Okay. Suarez ou Depardieu?
Ça peut être les deux.
Okay. Ou les deux.
Ou les deux. Thomas mène 40 points à 36 pour la rédac de SoFoot. Mmh. C'est encore jouable. Allez, on y va. À 14 ans, il manque de se faire virer de son internat parce qu'il a picolé.
Depardieu.
Eh non.
Les deux?
Luis Suarez.
Ah,
ado, Luis Suarez aime bien faire la fête et son entraîneur de l'époque est obligé de pousser quelques gueulantes là-bas en Uruguay. Bien vu, puisqu'à 19 ans, il débarque aux Pays-Bas et après, on connaît la carrière de Luis Suarez. Quant à Gérard Depardieu, il buvait certainement déjà à 14 ans, mais il n'a jamais été viré de l'internat. Et vous savez comment il explique son ébriété permanente?
GG.
Ben, il a dit à ce film, je bois quand je m'ennuie.
Oh, bah alors là.
Et dans ce même entretien, il faisait 14 bouteilles d'alcool par jour.
Ouais, avec Jean Carmet. Ouais,
14 bouteilles.
C'est alors un record du monde, je crois, invalidé par.
Ah oui, je pense. Hein.
Record, record, Gérard.
Et après un accident de scooter, il avait une autre explication, on l'écoute.
Avoir un petit peu d'alcool dans le sang, si je prends une salade un peu trop vinaigrée, je dépasse déjà la limite.
Voilà. Très bonne excuse.
C'est vraiment Gérard Depardieu qui explique comment il a eu cet accident de scooter.
C'est pas moi, c'est la mâche.
Alors là, zéro. Tout
oui, zéro, zéro.
Son geste technique préféré, c'est le doigt d'honneur.
Les deux.
Gérard Depardieu.
Les deux.
Oh, mais...
En décembre 2016, Depardieu a gratifié la presse argentine d'un bras d'honneur pendant une conférence de presse pour présenter sa pièce de théâtre.
Classique.
Et le 3 décembre 2011, Suarez a adressé un doigt d'honneur au public de Fulham, suspendu un match. Et il faut dire que le public n'avait pas arrêté de l'insulter en chantant ça. Racist Bastard.
Ah,
il chantait
ah
ça, en fait, sur l'air de la chanson que les supporters de Liverpool lui avaient dédicacée. Donc, ils avaient repris cette chanson et lui chantaient Racist Bastard en boucle.
Tous ces gens se sont fait virer de l'internat à 14 ans.
Aussi, ouais, je pense.
Allez, 1-0.
Troisième, 1-0 pour Thomas. Il déteste Patrice Evra.
Depardieu.
Suarez.
C'est Luis Suarez.
Bam!
En février 2012, il refuse de serrer la main à Patrice Evra, la conséquence d'une affaire qui avait coûté 8 matchs de suspension à Suarez. C'était en octobre 2011 et Evra avait juré que Suarez l'avait traité de négro. Quant à Depardieu, on ne doute pas qu'il aurait un avis sur le personnage. Il avait pu voir cette vidéo d'Evra.
Question préférée, mais qu'est-ce que je veux faire de tout ce qu'on fait? Ça mérite un peu de respect. Ça mérite un peu de respect.
Patrice Evra.
Ça a plu.
Avec des back vocals de Paul Pogba, du temps où ils étaient à Juventus.
Evra élu pire consultant
de l'âme du mondial.
La télé anglaise.
Un trophée de plus, bah regarde, il le dit. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces trophées?
Allez.
Quatrième, il a failli tuer un camarade.
Bah, de par Dieu.
Les deux?
Non, de par Dieu. Un point pour Sylvain.
Camarade.
On écoute.
Les mains sur le comptoir à l'abîme. Personne ne bouge.
J'ai oublié que ça jouait aussi bien.
C'était dans Les Fugitifs.
Oui.
Avec Pierre Richard, c'était en 86.
L'immense Pierre Richard.
Et Depardieu doit alors défoncer un bar au volant de son camion. Un câble est censé retenir le camion, mais le câble lâche et l'acteur qui jouait le barman voit le camion s'arrêter à 30 cm de sa pomme. Et cet acteur, c'était Jean Benguigui.
Oh.
Et comment aurait fait Laurent Ruquier sans Jean Benguigui? Si Jean Benguigui était mort en 86 sur le tournage des Fugitifs, il aurait été bien emmerdé, Lolo.
Deux, un
dernier. Il a tué un cerf pour les besoins d'une pub.
Depardieu.
Oui, exact. Ouf. Un point chacun. On écoute.
Pour fumer un cerf, il faut toujours être à l'heure. Avec Custos, je suis toujours à l'heure. Proud to be a Russian.
Cette pub est incroyable.
Pour fumer un cerf.
Cette pub est incroyable. Donc il parle en français, alors qu'il fait beaucoup de pubs, Gérard Depardieu, souvent. Bon. Il parle en simili russe ou en anglais.
Bon là, il parle directement en français. Quoi. Ouais. Bah, oui.
Voilà, il s'est chier.
Pas eu le temps d'apprendre le texte.
C'était pour des montres russes.
Très bien. Je repars avec une montre.
Donc, si je fais le récap, 3 pour Thomas, tout 2 pour Sylvain.
Sorry. Encore
j'ai l'impression
victoire.
Que c'est 4-2. Hein.
Football Recall.
Et aujourd'hui, on a une personnalité, une femme encore.
Oui.
Et quelle femme qui nous donne ses pronos? C'est Émilie Besse, journaliste pour le groupe Canal+.
Je vois bien.
Je vois bien.
Je vois bien.
Le match du jour.
Le match du jour.
Je vois bien une victoire de l'équipe de France déjà. Forcément. Et un 2-1 pour nous. Et je pense que c'est l'Uruguay qui va ouvrir le score.
Le retour des Bleus.
Le retour des Bleus.
Ça dépend du résultat. C'est sûr que si on a la coupe avec nous, je pense que d'un seul coup, tout le monde aura oublié les phases de poule et que l'équipe n'a pas tout de suite envoyé du rêve et qu'on se dira que c'est génial et on sera avec eux. Et si ça s'arrête samedi... tout le monde dira oui, mais c'est normal, on a fait un mauvais démarrage, c'était déjà énorme qu'on arrive en quart, à la française quoi.
La révélation.
La révélation.
La Croatie. Alors je sais pas si on peut parler de révélation, mais pendant les phases de poule, j'ai trouvé que c'était eux qui avaient produit le jeu le plus offensif et j'allais dire le plus convaincant. Même si le dernier match face au Danemark l'était pas, pour moi, je misais sur la Croatie. Et en même temps, je misais aussi sur le Portugal et l'Allemagne. Donc voilà.
Le joueur qui signera pour 100 millions d'euros au Real
après la Coupe du Monde.
Je ne vois surtout pas Kylian Mbappé au Real Madrid. Et je ne vois pas encore Pavard, même si je pense qu'un jour il ira.
L'état dans lequel Maradona
finira le mondial.
Dans le meilleur des cas, en train de boire des pina coladas avec Ronaldo et Messi. Et dans le pire, que je ne veux pas envisager, je pense, en soins intensifs.
Alors, est-ce qu'il a bien vu?
C'est toujours, est-ce qu'il a bien vu?
Il y a tellement peu de femmes.
On s'est pas fait chier, on s'est pas dit on va créer un deuxième jingle.
Macho!
Elles sont tellement peu.
Merci à Émilie Besse pour ses pronos.
Qu'on retrouve sur les antennes de C8.
Alors,
le bouton 8 de la télécommande.
Nos pronos à nous.
On rappelle juste les pronos sur France-Argentine, on les a déjà fait, on les rappelle juste. 5-3 pour Sylvain.
C'est pas France-Argentine, c'est France-Uruguay.
France-Uruguay.
Oui, 5-3.
5-3, ouais.
Moi je dis 1-0, mais en prolongue.
Et moi je dis 1-0. Et dans le temps réglementaire, personne ne voit l'équipe de France sortir.
On ose croire. Et l'autre match? On fait pas un pronostic pour l'autre match?
Allez.
Brésil-Belgique?
Ouais, allez.
Le Brésil.
2-0 Brésil.
Ouais, un truc. Moi, je vois plus de buts quand même. Je vois bien un 3-1, un truc comme ça. Mais à mon avis, on va vraiment se dire à la fin de ce match, ça y est, le Brésil est champion du monde. À chaque match.
Il monte en puissance.
Enfin, moi, c'est hallucinant. À chaque match, j'ai l'impression qu'il corrige les erreurs du match précédent. Donc,
Allez, je mets une petite pièce de folie sur la Belgique.
Ok.
Dédicace à Noé.
Football Recall.
Merci d'avoir écouté Football Recall jusqu'au 15 juillet. On sera là tous les jours de match au petit matin pour vous spoiler votre journée de foot. Les épisodes vont s'enchaîner et je vois Thomas en train d'essayer de trouver sa phrase de conclusion et il sèche, donc je vais meubler en attendant. Les épisodes vont s'enchaîner. Pour être sûr de ne rien louper, on vous conseille de vous abonner sur les sites de SoFoot et de Deezer. Je ralentis le débit parce que j'ai l'impression que Thomas est vraiment en train de sécher. Ou sur votre appli de podcast préférée. On se retrouve demain matin. On parlera évidemment de du France-Uruguay. On saura si la France poursuit son mondial ou si la Russie a décidé de nous renvoyer Alexandre Doskov. En un morceau, j'espère. Merci Sylvain.
Oui. Je t'en prie.
Et Thomas. Alors, c'est une passe D de Sylvain qui m'aide et triche comme au bac. Football Recall. N'oubliez pas, c'est encore plus classique qu'une coupe au bol.
Le podcast foot. By SoFoot. Et maintenant, vodka.
Messieurs, dames, place aux enchères, 10h. 5 millions ici. Ah, ça s'emballe, 12 millions. 20 millions par là. Oh, 31 millions. 39 millions ici. 43 millions pour madame. 43 millions une fois, 43 millions deux fois, 43 millions trois fois. Allez, c'est cadeau.
Abonnez-vous à Deezer Premium Plus et profitez de plus de 43 millions de titres sans aucune contrainte, même sans réseau. Deezer, le streaming made in France.